Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'histoire bien connue du débiteur ingrat, que nous venons une nouvelle fois d'entendre, est vraiment grotesque. Il vient d'effacer purement et simplement une dette colossale. On nous dit qu'il devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent, une paille. Et voilà ce débiteur qui refuse de remettre à son tour une bagatelle que lui devait quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si, pour parler avec des mots plus contemporains, plus proches de nous que ces pièces d'argent et ces talents de jadis, c'est un peu comme si la banque vous remettait d'un coup d'un seul, contracté par une vie un peu dissolue, l'achat d'un hôtel particulier en plein cœur de Paris, une limousine avec chauffeur pendant de nombreuses années et de très nombreux repas pris dans les meilleurs restaurants de la capitale. On vient de vous remettre ça, la banque vous annonce qu'elle a fait remise de tout cela. Et vous tombez sur l'un de vos proches qui, en plus, est nécessiteux, vous le faites jeter en prison, lui, sa famille, et vous vendez tous ses biens au motif qu'il vous doit, quoi, 1000 euros. Voilà donc l'histoire que nous raconte Jésus. Et il faut le dire, elle est grotesque. Mal, le cas est tellement surréel, mal à nous identifier à ce débiteur ingrat. Parce que j'ose croire que personne, pas même le pire des païens, oserait faire ce que fait ce débiteur. Tout le monde se scandaliserait à la vue d'un tel spectacle. Vous me direz que, par parenthèse, certains États surendettés n'hésitent pas à vous coller une amende ou à réclamer justement cette amende quand vous ne la payez pas, bon, peu importe. Là, je parle en général des gens bien intentionnés. Bon. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, si cette histoire est vraiment grotesque, et qu'on ne peut pas se reconnaître dans la personne du débiteur ingrat, pourquoi Jésus prend-il la peine de nous raconter cette histoire, d'enseigner, parce que c'est le faire, aucune parabole n'est employée en vain par Jésus, d'enseigner son auditoire avec cette parabole. Qu'est-ce qu'il veut nous délivrer comme enseignement? Au-delà de l'exhortation dont nous sommes déjà convaincus que lorsqu'on nous remet plusieurs milliers d'euros, il faut être capable de concéder quelques centaines d'euros qu'on nous doit, que Jésus veut-il nous enseigner? Il me semble qu'on peut trouver dans cette parabole une mise en garde, un avertissement autrement plus profond que cette simple petite histoire totalement grotesque. Quel est cet enseignement? À la vérité, quand on y regarde de près, le débiteur ingrat fait pitié, mérite. Fait pitié, d'ailleurs, le texte nous dit qu'en observant son comportement, ses amis ne sont pas en colère. Ça, c'est le maître qui est en colère à la fin de l'histoire. Eux ne sont pas en colère, mais ils sont profondément attristés. Effectivement, ils sont navrés. Pourquoi sont-ils navrés? Parce qu'ils constatent que leur ami est incapable d'entrer dans la logique de surabondance qu'il vient pourtant de voir éclater dans la conduite de son maître, celui qui lui a remis les quelques milliers d'euros. Ses amis sont navrés de sa médiocrité. Lui à qui on a tout remis ne remet rien, ne laisse rien passer. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi il demeure aussi mesquin alors qu'on vient de lui faire une telle grâce. Eh bien, il semble qu'en fait, ses yeux soient recouverts par des écailles qui l'empêchent d'être ébloui par la magnanimité de son maître. Et il y a un obstacle chez cet homme-là, et c'est pour ça qu'il fait pitié. Plus il y a quelque chose qui ne va pas au fond de lui. Il ne peut pas entrer à son tour dans la démarche de son maître parce qu'il y a en lui un obstacle rédhibitoire. Quel est-il cet obstacle? Notre homme est empêtré dans la logique étriquée du boutiquier. Elle, en toutes circonstances, un sou est un sou, quoi qu'il advienne. Et ne nous y trompons pas, aucune leçon de morale, tu dois remettre les dettes parce que toi, regarde la dette qu'on t'a remise, aucune coercition, même pas lorsque le maître le jette en prison, rien ne suffira à faire revenir cet homme de son erreur. Et de pourquoi il trouvera toujours des excuses à son action ingrate au nom de sa petite posture de boutiquier. De cela dont le Seigneur veut nous prémunir et notre attention, pour qu'il puisse saisir tout de suite la beauté du pardon que le maître vient de lui accorder, encore eût-il fallu que ce pauvre homme, ce pauvre débiteur ingrat, tentât d'enrayer la logique si pesante, si animale, si spontanée qu'il vit habituellement, celle de la vengeance. Voilà ce qui, dans le cœur de ce pauvre homme, l'empêche totalement d'être ébloui par le pardon que vient de lui accorder son maître et d'entrer dans la même posture. Il est, cet homme-là, encore dans l'ordre de la vengeance. On ne lui a pas payé une dette, il faut que, œil pour œil, dent pour dent, il faut qu'il récupère tout et immédiatement. Peu importe les circonstances, peu importe que lui ait été gracié, peu importe. On lui doit quelque chose, il entend que tout lui soit donné immédiatement et que sonnant et trébuchant. Il lui fallut, pour comprendre toute la grandeur, la beauté du comportement de son maître, voyez, qu'il commence tant soit peu à aimer son semblable. Voilà où le bât blesse, à lui pardonner. En un mot, il lui fallut un début de bonne volonté de la part de ce type. En fait, la parabole d'aujourd'hui pourrait nous laisser croire qu'il faut d'abord avoir été pardonné par Dieu, présenté derrière les traits de ce maître, c'est évident, le maître magnanime c'est Dieu, tout le monde le sait. On pourrait donc croire en lisant cette parabole qu'il faut d'abord être pardonné par Dieu pour ensuite, et avoir conscience de l'être, et être émerveillé de l'être, pour ensuite donner à son prochain. Mais on constate que ça ne suffit pas. Cette personne, ce débiteur ingrat, a été pardonné par son maître. Comment ? Et il est incapable de pardonner à l'autre. Donc, le pardon divin antécédent et la connaissance de ce pardon divin ne suffit pas à pardonner à son prochain. En réalité, dans l'ordre des choses, et cela affleure partout dans l'Évangile, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je commence par pardonner à mon prochain, que je renonce à faire vengeance, à vivre dans cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, d'abord, et ensuite seulement, je peux expérimenter dans sa plénitude le pardon que Dieu m'accorde. Vous voyez, Benoît XVI, dans son fameux Jésus de la phrase que je trouve très belle et très juste, et qui s'applique, je trouve, à cette situation. Le pardon divin ne peut entrer que dans celui qui, lui-même, pardonne. Pardon divin ne peut pénétrer, ne peut porter son fruit que dans le cœur de celui qui déjà pardonne, qui déjà a pardonné. L'ordre qui apparaît dans la demande du pater, la traduction française, comme très souvent, est un peu étroite, n'est pas assez explicite. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. On a l'impression qu'il y a simultanéité entre les deux. On peut se faire pardonner ses péchés, saisir toute la beauté du pardon divin, parce que en même temps on pardonne à ses frères. Mais l'original araméen ou grec est beaucoup plus clair. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons remis nos offenses, comme déjà nous avons remis nos offenses. C'est déjà fait. C'est parce que j'ai déjà remis, j'ai déjà regardé l'autre autrement que en justicier vengeur, qu'alors je peux demander pardon à Dieu et entrer dans cette logique magnifique de la miséricorde divine. Pas si je me fais comprendre. Avoir vos regards un peu d'orve, voilà. Travail, on prie le dimanche matin. Voilà. C'est ce même ordre qui apparaît dans l'exhortation du sermon sur la montagne. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, cours d'abord te réconcilier avec ton frère et alors viens porter ton offrande devant l'autel. D'abord, j'enraye la spirale de la vengeance. D'abord, je règle mon histoire avec mon prochain, soit qu'il me doive quelque chose, soit que je lui doive quelque chose. Vous voyez, d'abord, je pardonne à mon prochain, et ensuite seulement, je viens présenter devant Dieu en lui demandant qu'il me pardonne et en lui demandant d'entrer dans la logique du pardon. Vous voyez, cet ordre est fondamental. Pas seulement parce que demander pardon à Dieu quand on n'a pas soi-même pardonné, c'est quand même un peu gonflé ou hypocrite. Pas seulement, mais plus profondément, plus fondamentalement, parce que si je n'ai pas d'abord tant soit peu pardonné à mon prochain, je ne serai même pas capable de recevoir le pardon divin. Et c'est ce qui se passe dans la parabole d'aujourd'hui. Ce brave homme ne peut même pas éclater en sanglots et être béat d'admiration devant cette magnifique posture de celui qui lui a tout remis. Les Juifs l'avaient bien compris, ça. Ils avaient déjà compris, lorsque la loi demandait que régulièrement on fasse remise des dettes, c'est ce qu'on appelait les années jubilaires, Vous voyez que ça ne date pas de l'Église catholique. On remettait les dettes. On avait compris qu'il fallait ces sortes de soupapes pour que le cœur humain ne s'enquiste pas et que l'homme puisse entrer dans cette démarche du pardon divin. Et qu'à son tour, il adopte ces mêmes mœurs du pardon divin. C'est déjà très beau dans le christianisme, mais dans le judaïsme. Mais dans le christianisme, il y a mieux encore, il y a plus. Non seulement je paie, une fois que j'ai pardonné à l'autre, suffisamment en paix pour pouvoir recevoir le pardon divin, voyez, mais en plus, je ne m'en tiens pas là. En plus, par rapport à l'ancienne alliance, j'ai là de la révélation de ce qu'est le pardon divin, de ce qu'est la miséricorde divine. La miséricorde divine, je la vois dans la figure de Jésus-Christ. Et quand je vois Jésus-Christ, je comprends que ce Dieu qui s'incarne, qui prend la dernière place, qui se tait devant ses juges et qui supplie le Père, cerise sur le gâteau, de pardonner ses bourreaux, je comprends que je dois entrer dans cette même logique. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de pardonner à mon prochain tant soit peu pour être capable de recevoir le pardon divin, mais avec le christianisme, il faut en plus que j'entre dans ce pardon divin suréminent, surabondant, qu'est celui qui est manifesté en Jésus-Christ. Alors, je pourrais vivre de l'esprit des béatitudes. Comprenez ? Je vis de l'esprit des béatitudes. Le spectacle de la vie de Jésus sous les yeux et la grâce de Dieu dans le cœur, je considère mon prochain d'une manière totalement nouvelle. Je ne lui pardonne plus seulement les quelques dettes qu'il a à mon égard, par-ci, par-là, comme je faisais dans un premier temps. Mais je vais au-devant de lui. Il me demande de faire ça, j'en fais 200. Il me demande ma tunique, je lui donne encore mon manteau. Il me frappe sur la joue droite, je tends encore ma joue gauche. C'est ça la logique des béatitudes. Je résume ce que je viens de vous dire, au risque d'être un peu pesant. Il faut premièrement que je commence un peu à pardonner même celui que je ne supporte pas, à pardonner, remettre quelques petites dettes. Et ensuite, je peux me présenter devant Dieu, être subjugué, recevoir son pardon, être subjugué par ce pardon, et voyant que ce pardon va jusqu'à Jésus en croix, demander à Dieu de susciter en moi cette même logique du pardon. Vous voyez cet effet boule de neige. La première étape est décisive. Il faut que j'accepte dans un tout premier temps, avant même de me présenter devant Dieu, il faut que j'accepte dans un premier temps de pardonner tant soit peu à celui que je fréquente tous les jours et qui m'insupporte parce qu'il a telle ou telle petite dette à y regarder bien près. Est-elle sérieuse cette dette? Est-elle si pesante que cela? Parce que je demande au Seigneur pour nous aujourd'hui qu'il nous permette de faire ce premier pas. Parce que sans ce premier pas, nous ne pourrons pas vivre du pardon divin et aller au-delà, jusque dans l'esprit des béatitudes, qui est pourtant notre vocation chrétienne. Il faut quitter ces petites mares pour petit à petit entrer dans l'océan de miséricorde que Dieu nous propose de vivre.